TED Radio, du son, du cœur, une passion. Wanted Radio, première sur la nature en ville. Écolo égale nature, pas si sûr. Solution nature, avec Valérie sur Wanted Radio.
Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour Samuel, bonjour Agathe, bonjour Monsieur Gadré au téléphone, vous m'entendez ?
Bonjour, bonjour, je vous entends.
Bon, super, donc nous sommes, j'aime bien faire un petit éphéméride moi pour remettre toujours dans le contexte et puis ça nous permet aussi de faire des références point climat. Donc nous sommes le 17 novembre 2025 sur Bordeaux, l'hiver est arrivé, ça y est, il fait froid, ce matin il faisait 3 degrés, et par contre ce week-end il faisait 22, 23, enfin, c'était le printemps quoi. Bref, donc on ne comprend plus rien. Aujourd'hui, à Solution Nature, nous allons recevoir une association qui se situe à 6 heures de chez nous, par voiture. C'est ça, j'ai regardé sur Maps. Il nous faut 6 heures pour aller chez vous, monsieur Gadré ?
Oui, ça doit être à peu près ça, voilà.
Est-ce que je peux vous appeler Benoît ?
Oui, oui, pas de problème.
Donc, nous allons écouter Benoît, qui habite à La Bresseille, dans le Morvan, dans le parc régional, sur le parc régional naturel du Morvan, et qui est dans une association. Vous en êtes le fondateur, le président ?
Alors, moi, je suis un membre du bureau et un peu porte-parole de l'association, la présidente étant Valérie Bernada.
Et qui va nous parler de leurs problématiques à eux. Si nous, chez nous, c'est l'urbanisation qui rase nos forêts et nos espaces naturels, là-bas, leur problématique, c'est plutôt les industries forestières qui rasent les forêts avec les coupes rases. Donc, monsieur Benoît va nous expliquer tout ça. Et ils ont fait une cérémonie, justement, pour rendre visible ce combat qui s'appelle les glands d'or. Je trouve ça très, très sympathique. Donc, monsieur Gadré, oui. Parlez-nous de La Bresseille. Je suppose que c'est au milieu de la forêt.
Alors, La Bresseille, c'est le nom d'une association qui existe depuis maintenant une trentaine d'années. Et c'est également le nom d'une forêt de 25 hectares qui se situe dans le sud du parc naturel régional du Morvan, sur une commune qui s'appelle La Roche-Millet, où nous habitons. Et c'est une forêt qui était menacée d'une coupe rase il y a une trentaine d'années et pour laquelle les habitants se sont battus pour la sauver, et même la présidente de l'association, donc Valérie Bernada, pour qui c'était un peu sa forêt d'enfance, on va dire, et qui avait beaucoup d'affect vis-à-vis de cet ensemble forestier, a fait une grève de la faim à l'époque devant la mairie.
Wow.
Pour éviter cette coupe rase. Et voilà, ça a été radical. Donc ça a un peu marqué les esprits dans notre région.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que nous ne sommes pas tous au courant de ce que c'est vraiment une coupe rase. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer, à nous néophytes et urbains, ce que c'est une coupe rase ?
Alors, une coupe rase, c'est en fait le fait de couper tous les arbres sur une même parcelle, tous les arbres en même temps. À l'inverse d'un autre mode de sylviculture, nous, qu'on promeut et qui consiste à couper, à faire des prélèvements réguliers dans le temps et à toujours garder un couvert continu, c'est-à-dire d'avoir toujours des arbres et de ne pas avoir un sol nu, et bien à l'inverse de cela, cette méthode appelée coupe rase consiste à, sur une même parcelle, en général c'est la parcelle d'un propriétaire, et bien les forestiers coupent l'ensemble des arbres, c'est-à-dire qu'on laisse le sol à nu.
Oui, ça fait un trou dans la forêt, quoi.
Fait un trou dans la forêt. Alors déjà, c'est horrible
à voir
en termes de paysage, sur l'esthétique du paysage. Et pour nous, c'est très important. Hein. On est dans une région vallonnée de moyenne montagne. Quand vous avez une coupe rase de plusieurs hectares juste en face chez vous, ça change tout. Ça change tout. Vous avez des gens qui ont choisi de venir habiter ici parce que le Morvan, justement, est connu pour ses forêts. Et vous avez des hectares entiers qui sont coupés à blanc. On parle de coupe rase ou de coupe à blanc, c'est la même chose. Et qui modifie totalement le paysage. Donc, à l'origine, les gens se sont mobilisés pour ça parce que ça changeait leur cadre de vie, leur environnement, le paysage qu'ils ont devant leur maison ou devant leur logement. Et puis, avec le temps, ben, on s'est aperçu aussi que ces coupes rases, elles avaient un impact important et un impact totalement négatif sur le milieu forestier, puisque maintenant, on sait que cette méthode radicale hein, de sylviculture est dévastatrice à la fois pour les sols, pour l'eau, pour la biodiversité et évidemment pour le paysage, on vient d'en parler. Et ça, au départ, c'était un petit peu, il y a quelques années, enfin il y a 20-30 ans, c'était plutôt l'affect qui parlait, c'est-à-dire le côté j'aime ma région et ses forêts participent à l'identité du Morvan. Et on est en train de les faire disparaître de cette façon-là et de faire des trouées dans les forêts qui changent complètement la nature des coupes.
Oui,
Et
c'est-à-dire
puis il
que...
faut dire aussi que, et ça vous connaissez bien ça dans votre région, même si ce n'est pas tout à fait la même histoire, mais à la place, dans les années, les coupes rases, elles ont commencé dans le Morvan dans les années 70.
D'accord.
Et à l'époque, c'était des compagnies d'assurance, c'était la Caisse des dépôts et consignations, la Caisse d'épargne et d'autres. Depuis, les choses ont changé. Hein. Et à l'époque, ces organismes ont acheté des dizaines, voire des centaines d'hectares, et les ont coupés à ras pour replanter du résineux, c'est-à-dire du Douglas en monoculture. Et là, ce n'est plus une forêt, mais un champ d'arbres. Hein, et ça change tout. Et on l'a vu au moment de la crise du scolyte, là, il y a 3-4 ans, où en fait, tous ces arbres, et notamment en matière d'essence de résineux, l'épicéa a été touché par les scolytes et tout a été coupé parce que les arbres mouraient en fait hein, de ça. Donc, alors, il y a eu cet impact-là. Et puis évidemment, en termes de paysage, le fait d'avoir un alignement de résineux de Douglas à la place d'une forêt mélangée, bah, au niveau esthétique, c'est pas du tout la même chose.
Oui, et alors je voudrais que pour que nos auditeurs se représentent bien, en fait, l'imagerie d'une coupe rase, c'est en fait, c'est il faut imaginer que vous avez par exemple une montagne avec de la forêt et tout d'un coup après vous avez une montagne pelée avec plus rien,
Ah
quoi.
ben,
C'est le
c'est un seul
désert,
nu.
c'est la désertification totale.
C'est un seul nu. Donc, c'est terrible. Hein, en fait, ça va vite. Hein, ça va très vite. C'est pour ça que nous, on est extrêmement vigilants. Parce que.
Oui, ils ont les machines qu'il faut qui
Alors,
sont
c'est
très
pas
rapides.
forcément. Alors, autant chez vous, dans votre région, ce sont souvent des machines parce que vous avez des plantations qui le permettent ou un relief qui le permet. Chez nous, c'est parfois des machines, mais ce sont essentiellement des bûcherons qui viennent à la demande, donc des entreprises qui sont sous-traitantes, qui viennent à la demande des forestiers, et ils viennent à 10, 20, 30 bûcherons et coupent au fur et à mesure tous les arbres d'une même parcelle. Et ça peut aller très très vite, très vite.
D'accord.
C'est-à-dire qu'en une semaine, vous pouvez avoir plusieurs hectares qui sont à terre et de façon évidemment irréversible, quand c'est fait, hein. C'est pour ça qu'il faut,
Et
si on
après,
intervient,
même
il faut.
aujourd'hui encore, il continue après à planter du résineux à la place.
Alors, aujourd'hui, les choses ont un petit peu changé dans le sens où il est demandé, il est même, c'est même une obligation pour les forestiers de replanter avec des essences mélangées. Bon, nous, ce qu'on voit, c'est que, donc, c'est-à-dire une partie résineux, une partie feuillue. Sachant que historiquement, le Morvan, Les forêts du Morvan sont des forêts de feuillus. Le résineux, il est apparu à partir des années 50, 60, 70. Donc, aujourd'hui, ils ont
il est apparu, vous dites, il est apparu de manière spontanée ou il a été...
C'est l'après-guerre.
Il a été installé par les hommes.
Par les hommes.
D'accord, donc c'est pas une essence spontanée du Morvan.
Pas du tout. Le Douglas, qui est l'essence de résineux principale dans le Morvan, a été importé des États-Unis. C'est pas du tout un arbre de la région à l'origine. Donc c'est un arbre qui se plaisait bien dans la région et surtout dans les années 70, 80, 90, parce que notre région, elle est relativement arrosée. Le Douglas aime bien avoir de l'eau. Et le type de sol correspondait bien aussi au Douglas. Donc, il ne s'est plus dans le Morvan. Il se plaît peut-être un peu moins aujourd'hui, parce que, comme partout ailleurs, avec le réchauffement climatique, eh bien, la donne, elle change. Et donc, elle impacte évidemment le milieu forestier, y compris... les Douglas.
Voilà. D'accord.
Mais donc, c'était une importation. Enfin, c'est la main de l'homme. Hein.
Oui, c'est un choix politique, c'est un choix du territoire,
bien sûr,
en fait.
Bien sûr. À l'origine, et encore c'est le cas, heureusement, hein, la plupart des. Enfin, au moins plus de 50% des forêts du Morvan sont des forêts de feuillus, de chênes, beaucoup de châtaigniers, de charme, de hêtres, de frênes.
Donc voilà, c'est des vraies forêts sauvages et naturelles.
Oui, c'est ça. Donc qui ont toujours été quand même exploitées, hein, en laissant toujours un couvert continu. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que les anciens chez nous appelaient une forêt jardinée.
Oui, c'est ce que les Suisses font d'ailleurs beaucoup, les forêts jardinées.
C'est ça, ce qu'on appelle une forêt jardinée, c'est-à-dire comme un jardin, hein, où on prélève au fur et à mesure, mais avec une façon de faire qui ne laisse jamais le sol à nu. C'est ça qui était...
Qui ne laisse pas de traces, surtout, impactantes voilà, sur l'environnement.
Pas de traces au niveau esthétique, et puis qui préserve la forêt, puisque c'est le discours qu'on en tient. Nous on n'est pas du tout... on ne veut pas sanctuariser nos forêts, hein. c'est pas le discours. Hein. Nous, on sait qu'il est nécessaire d'exploiter les forêts, donc on peut faire des prélèvements, on peut faire des coupes, ça ne nous pose pas de problème, mais il faut le faire de façon raisonnable, et surtout en laissant un couvert forestier en permanence et jamais mettre le sol à nu.
Oui, en laissant toujours l'origine de la forêt pour qu'elle se régénère naturellement. Est-ce que vous savez où vont les arbres qui sont rasés ? À quoi ils sont destinés ?
Pas vraiment, parce que ça, l'information... Il n'y a pas beaucoup de transparence là-dessus. Hein. Vous savez, Alors, je ne sais pas dans votre région, mais chez nous, le milieu de la forêt, c'est un milieu assez opaque.
Et pareil chez nous, c'est voilà, la même chose.
Il n'y a pas de transparence, c'est très difficile d'avoir des informations. Vous savez, les forestiers, je vais vous donner un exemple, mais ça, c'est pour toute la France. Hein. Et c'est sur ce sur quoi on travaille aussi, nous. Quand un forestier fait des coupes sur une surface supérieure à 25 hectares, il est obligé de faire ce qu'on appelle un plan simple de gestion. C'est-à-dire, en gros, il va dire de façon écrite, voilà, moi, à 10 ans, sur une période de 10 ans, ou 20 ans, ou 30 ans, ça dépend, voilà ce que je vais faire en termes de travaux. Et c'est dans ce plan simple de gestion qui est agréé par le Centre régional de la propriété forestière, qui est un organisme semi-public, mais qui est en fait géré par des grands propriétaires forestiers. Et c'est ce CRPF qui va valider le plan simple de gestion qui est fait, c'est-à-dire le plan de coupe pour les années à venir. Donc, dans ce plan simple de gestion, il y a en fait un peu tout le programme des coupes pour les années à venir. Et ce document-là, il n'est pas accessible.
Il n'est pas accessible au public.
Non, il n'est absolument pas accessible
ni
au public.
Ni même à vous qui êtes voisins et qui seriez les premiers concernés.
Non, il ne l'est que dans la mesure où la forêt est agréée FSC, qui est un label très particulier, mais c'est une démarche volontaire du propriétaire. Et là, à ce moment-là, il s'engage à le fournir aux gens qu'il demande, et en particulier aux associations environnementales. Mais la loi française dit non. Donc, en gros, si vous voulez, vous pouvez, sur des surfaces, c'est 25 hectares, c'est très important, vous pouvez faire des coupes sans que votre voisin en soit informé et sans qu'il ait la possibilité de savoir ce que vous allez faire. Alors que si chez nous, mais chez vous aussi, vous mettez une fenêtre de toit.
Oui, chez il faut
vous,
demander l'autorisation à la mairie, aux architectes.
Il faut faire une déclaration préalable de travaux et que c'est, ou un permis de construire dans le cadre d'une construction. Hein, et à ce moment-là, cette demande de permis de construire ou de déclaration préalable de travaux. Eh bien, ce sont des documents qui sont accessibles à tous les habitants de la commune concernée. Et là, ce n'est pas le cas. Et là, c'est vraiment un manque de transparence qui est évident. Alors, on a du mal à savoir ce que les propriétaires envisagent de faire. Et puis, évidemment, pour revenir à votre question, il est très difficile de savoir que deviennent les arbres. On sait qu'il y a certains qui partent, les boupiers qui partent en Chine ou ailleurs, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui restent dans la grande région Bourgogne-Franche-Comté pour aller dans des scieries, pour faire du parquet, enfin ça dépend. Et puis aussi il y a tout le bois de chauffage, il y a une part importante pour le bois de chauffage.
Alors moi j'ai une
interrogation. Et de plus importante.
Oui, j'ai une interrogation sur, si on prend le pan économique, vous voyez, je vais essayer de réfléchir, je me mets dans la peau d'un propriétaire forestier qui a une parcelle de 25 hectares et qui rase sa forêt d'un coup, d'un seul. Mais après, il a au moins un espace-temps énorme, 30-40 ans, où il n'a pas de revenus.
C'est ça. C'est en
donc,
fait
économiquement, est-ce que c'est vraiment aussi favorable que ça?
Alors, c'est favorable à court terme, surtout quand le bois est très cher, comme ces dernières années.
D'accord, donc c'est un coût ponctuel à court terme, en fait.
À court terme, évidemment, c'est une belle opération financière avec une forte rentrée d'argent. Le seul problème, c'est quand vous faites ça, eh ben vous supprimez, vous détruisez tout votre capital.
C'est ça. C'est ça qui m'interroge, en fait.
C'est ce que des études ont démontré, notamment l'Association française pour les futaies régulières et un autre organisme qui s'appelle ProSilva, qui promeut un autre type de sylviculture, donc la sylviculture dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire avec un prélèvement régulier tous les 7, 8 ans, enfin ça dépend des forêts, et toujours avec ce couvert continu. Et en fait, ce que nous expliquent ces experts, hein, parce que ce n'est pas des gens marginaux, hein, cette méthode-là, elle existe de... Elle est partagée par des centaines d'exploitants forestiers en France, hein, et de propriétaires forestiers. Donc, c'est quelque chose qui est très connu, reconnu, et dont les bienfaits sont reconnus également.
Et en vous fait, parlez de la forêt jardinée, hein, qu'on soit bien clair.
Oui, c'est ça, la forêt à couvert continu.
À couvert continu.
Voilà. Et ProSilva, ou l'Association pour la futaie régulière, explique très bien, et document à l'appui, que sur une période de 30 ans, par exemple, eh bien, au final, c'est plus intéressant d'un point de vue économique de l'exploiter de façon avec des méthodes douces, on va dire, avec des prélèvements réguliers et pas de couper complètement. Et c'est d'autant plus important qu'il y a quand même une donne qui change aujourd'hui, c'est le réchauffement climatique. Et nous, qu'est-ce qu'on voit ? Dans le Morvan, vous avez donc des parcelles entières qui sont coupées à ras, le sol est nu, on replante des essences. Alors, c'est censé être des essences mélangées, mais c'est souvent beaucoup de résineux et un tout petit peu de feuillus. Et ce qu'on voit, nous, c'est qu'avec la chaleur qu'il fait aujourd'hui et le fait que quand vous mettez votre sol à nu, évidemment, chacun le comprendra qu'il n'y a plus d'ombre, on l'expose pleinement au soleil, Et donc, la terre, le sol chauffe davantage et on voit qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de pertes dans nos régions. Nous, on voit parfois des parcelles qui ont été replantées et vous avez 50% d'échecs sur les plans.
Donc,
Et quelque part, ce qu'il faut dire aussi, ce qu'il faut préciser, c'est que ces replantations, elles sont subventionnées, elles sont intéressantes fiscalement. Quand vous faites ça, vous bénéficiez de subventions et d'avantages fiscaux.
Non, mais ce que je voulais dire, moi, c'est qu'en fait, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a double peine pour la forêt, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle est rasée totalement, donc il y a la disparition de tout ce qui fait une forêt, plus tous ces bienfaits écosystémiques et sa biodiversité, mais en plus, il y a un gaspillage de matières premières, puisqu'il y a la moitié des plants qui ne vont pas survivre.
Donc, moi, j'ai dit la moitié, parce que je vous parle de parcelles où on a vu qu'il y avait la moitié. Ce n'est pas toujours la moitié. Ça peut être un tiers, ça peut être moins, ça peut être plus. Tout dépend de l'orientation de la parcelle. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a un taux d'échec sur les replantations, et ça, tous les forestiers le disent, qui est beaucoup plus important aujourd'hui de par le réchauffement climatique.
Donc, du coup, il y a quand même encore une exploitation du vivant et un gaspillage du vivant.
Et un gaspillage de l'argent public. Hein. Encore une fois, ces opérations de replantation sont subventionnées. Elles l'ont été encore plus pendant le plan de relance. Vous savez, le président de la République a dit on va planter un milliard d'arbres.
Oui, un milliard d'arbres.
Mais la forêt, bonne forêt, alors on peut replanter, mais de façon très marginale. Mais une forêt bien gérée, elle n'a pas besoin d'être replantée. Hein.
Absolument.
Il y a une régénérescence naturelle qui fait que elle se pérennise dans le temps grâce à cette régénération et vous n'avez pas besoin de replanter.
Benoît, on arrive sur la fin. J'ai encore une petite question. Est-ce que depuis quelques années, vous voyez augmenter une pression sur les prélèvements forestiers parce que les multiplications d'usages au niveau du bois se sont faites. Maintenant, on utilise le bois pour chauffer avec les usines biomasse, les chaudières en biomasse. On l'utilise dans le textile avec la viscose. On les utilise dans la construction pour faire des bâtiments frugo bas carbone. On les utilise un peu plus partout. Est-ce que vous voyez cette augmentation de pression?
Oui, clairement. Clairement, et surtout pour le bois énergie. Il est évident qu'il y a une forte augmentation de l'usage de bois énergie et que sur des forêts comme les nôtres, ça a évidemment un impact. Donc le bois se vend bien et vite. Et je peux vous dire aussi que quand des parcelles de bois sont à vendre, elles sont très vite vendues.
Ça devient un investissement intéressant.
Parce que c'est aussi subventionné et fiscalement, il y a des avantages fiscaux. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais il y a des avantages fiscaux qui rendent
c'est
un bon placement.
Un progrès quand même dans les consciences, Vous voyez quelque chose qui vous donne espoir pour l'avenir des forêts.
Et je voulais quand même mettre l'accent là-dessus.
Oui, allez-y, Benoît.
Tout à l'heure, on a dit que ces coupes rases avaient un impact sur le milieu forestier, pour les sols, pour l'eau, pour la biodiversité. Et ça, c'est démontré depuis maintenant 3-4 ans. On a eu deux études, une première du conseil scientifique du parc régional du Morvan, qui a travaillé il y a à peu près 4 ans sur ce domaine-là. Et puis après, il y a eu une étude qui était demandée par les ministères de la Transition écologique et de l'Agriculture, étude à laquelle ont collaboré 70 scientifiques sur toute la France, et notamment des gens de chez vous. Les conclusions, maintenant, elles sont très claires. Elles sont très claires. Et elles vont dans le même sens. Toutes les études le montrent, que ce soit en France ou à l'étranger, c'est qu'il y a des conséquences très importantes si on applique cette méthode radicale qu'est la coupe rase, des conséquences très importantes sur les sols, et c'est peut-être le plus important. Il y a un risque d'érosion des sols, puisque évidemment les sols sont lessivés, et donc toute la couche de fertilité de surface, elle descend en bas des pentes. Et puis, il y a aussi un impact très fort sur le tassement du sol, c'est-à-dire un sol en forêt, c'est comme un millefeuille. Et si vous appuyez trop dessus, si vous mettez une charge trop lourde dessus, vous avez un tassement qui fait que ça peut avoir des conséquences irréversibles. Et c'est ce qu'on est en train de montrer.
Oui, le compactage du sol, nous, on en parle beaucoup ici
Nature. L'impact sur les sols est très important. Et quand vous avez une forêt jardinière, bien évidemment, il y a quand même des machines, des engins de débardage qui vont chercher le bois, mais vous impactez entre 15 et 20% du sol. Quand vous faites une coupe rase, vous impactez 80 à 90% du sol, et c'est pas du tout la même conséquence. Donc ça, si vous voulez, ce sont des éléments objectifs dont on se sert aujourd'hui pour essayer de persuader les gens de ne pas faire ça, en leur disant, attendez, non seulement vous allez perdre votre capital en coupant tout votre bois, mais vous allez abîmer aussi vos sols et votre propriété. Donc ne faites pas ça. C'est pour ça que nous, on essaye d'informer tous les petits propriétaires qui sont démarchés parfois par les forestiers. Il y a beaucoup de petits propriétaires chez nous, des petites parcelles de 1-2 hectares. La forêt est très morcelée et nous, on a fait tout un travail de documentation qu'on a distribué un peu partout pour les petits propriétaires en disant, attendez, certes, vous allez avoir une rentrée d'argent à très court terme, mais réfléchissez pour la suite, ce que ça veut dire.
Benoît, mais écoutez, c'est très intéressant, on pourrait en parler encore pendant des heures, mais notre émission, hélas, va toucher à sa fin. Donc, comment fait-on pour vous retrouver, suivre votre défense pour la forêt du Morvan, vous soutenir? Donnez-nous quelques contacts, s'il vous plaît, Benoît.
Alors, nous, on a un site internet, c'est la Breseille, en un seul mot. Breseille, c'est Breseille. .fr, et donc on a toutes nos activités associatives qui sont sur ce site. Si vous voulez aussi avoir des informations sur l'ensemble du territoire français et sur votre région, moi je conseille aussi d'aller voir le site de Canopée Forêt Vivante, qui est une grosse association avec qui on travaille, qui travaille là-dessus au niveau du territoire national, et qui donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations sur ces méthodes-là, sur les études scientifiques, enfin des éléments, encore une fois, objectifs. Il ne faut pas parler dans le vide, il faut parler sérieusement.
Oui, avec des faits étudiés, mesurés sur le terrain.
Et c'est une association qui s'appelle donc Canopée Forêt Vivante, et ils ont aussi un site internet, et vous pouvez aussi consulter leur site.
Oui, on en parle beaucoup, de Canopée. Mais écoutez, Benoît, merci de nous avoir expliqué tout ça.
Merci à vous pour l'invitation.
Si vous voulez revenir dans quelques mois ou l'année prochaine pour nous annoncer des bonnes nouvelles, surtout n'hésitez pas à nous recontacter et on refera une petite émission si vous souhaitez. Ça sera avec plaisir.
Juste comme bonne nouvelle, parfois on arrive, je le dis, à convaincre des propriétaires et on l'a fait là récemment pour une grande forêt qui était menacée de coupe, une forêt de 200 hectares. Alors, elle n'a pas été toute coupée, mais une bonne partie. Et on a réussi à convaincre les propriétaires de changer de
mode de sylviculture.
Voilà.
Bravo. Bravo, félicitations.
Il faut faire ça.
Parce que même si vous êtes qu'à 6 heures de route de chez nous, vous n'êtes qu'à 6 heures de route de chez nous et on sera impacté aussi si vos belles forêts disparaissent.
Bien sûr, bien sûr.
Et on se retrouve le mois prochain pour une autre émission, interview, surprise. Bon mois à tous, bonne journée Samuel, bonne journée Benoît, merci encore. Au revoir.
Merci à vous.
Wanted Radio, première sur la nature en ville. Wanted Radio, du son, du cœur, une passion.